Bonjour Patrice.
Au menu de ce Sport Matin Dimanche, plutôt copieux aujourd'hui, il faut le dire. Nous parlerons bien entendu de football avec un retour sur la défaite des Chamois hier soir à domicile face à l'AC Ajaccio. Et puis, puisque l'on parle de football, Jean-Luc Berthaud, le monsieur arbitre du district, sera notre invité fil rouge de ce matin. En basket, les Choletais ont réalisé une bonne opération hier soir face à Chalon-Reims. Au programme également du handball, du volley, du rugby. Nous parlerons également tennis avec un focus sur le tennis fauteuil proposé par le TCB depuis un an et un tournoi open, une première en France de cette discipline en fin d'année dans la capitale bocquenne. Et puis la saison de cyclisme débute cet après-midi avec le prix André Decoux en Gâtine. Nous en parlerons également dans cette émission.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
On commence, Jean, par le football et le championnat de Ligue 1.
Championnat de Ligue 1 qui a commencé vendredi soir avec la victoire des Lyonnais en déplacement à Lorient sur un score de 4-1. Hier samedi, les Brestois se sont imposés à Lens. Belle victoire des Brestois et importante pour le maintien. 1-0. Et hier soir, la bête noire du Paris Saint-Germain, les Niçois se sont imposés à la 88e minute par 1-0. Paris Saint-Germain qui jouera cette semaine, le rappelons-le, le match retour contre le Real de Madrid en Coupe d'Europe. Aujourd'hui à 13h, les Stéphanois affronteront à domicile le club de Metz. Match important pour le maintien, comme celui qui aura lieu à 15h où les Bordelais accueilleront 3. Nantes accueillera Montpellier. Les Nantais qui cette semaine se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu le 7 mai. Reims accueillera Strasbourg et Rennes accueillera son club voisin de Angers. À 17h, Lille accueillera Clermont. Et à 20h45, ce sera le derby du Sud, Marseille accueillant Monaco.
On passe à la Ligue 2. Les Chamois jouaient à domicile hier soir face à l'AC Ajaccio. Un match que vous avez sûrement suivi en direct ici même avec Simon Jarnot et Jérôme Degnaud. Si le premier quart d'heure était à mettre à l'actif des Corses, les deux formations ont ensuite fait jeu égal sans grandes véritables occasions jusqu'à cette 86e minute, alors que l'on pensait les deux équipes se séparer sur le point du match nul. À 5 minutes du coup de sifflet final, les Ajacciens par Crasso ont trouvé la faille, avec un peu de bonheur il faut l'avouer, pour marquer le but qui a fait basculer la rencontre. Difficile alors de rejoindre le score. Défaite, la 5e consécutive des Niortais, une défaite cruelle comme l'a souligné le coach Sébastien Le Sabre à l'issue du match.
Elle est cruelle parce que quand vous avez une débauche d'énergie comme on a eu ce soir et puis vous prenez un but à 5 minutes de la fin contre le 3e du championnat, oui, c'est cruel. C'est toujours un peu difficile à avaler, mais il faut relativiser et garder les choses positives de ce match et surtout analyser ce qui n'a pas été pour pouvoir s'améliorer. Non, ce qui est important à dire, c'est que voilà, on était extrêmement jeunes ce soir, hein, avec des joueurs de 20 ans, des joueurs de 18 ans. Alors on est un peu frustrés parce qu'effectivement, il faut payer pour apprendre en ce moment. Mais après, je peux sincèrement que féliciter mes joueurs sur la débauche d'énergie, sur l'organisation tactique, sur le cœur qu'ils ont mis, parce qu'on a été proche quand même de tenir à Ajaccio. Après, on va bien se reposer et puis il faut qu'on reparte de l'avant, qu'on retrouve un petit peu de joueurs également. Et puis voilà, donc on est déçus parce que c'est le 4e match où on perd 1-0, encore à 5 minutes de la fin, alors qu'on a eu des occasions pour mener. Voilà, c'est ça qui est décevant. Le fait peut-être de ne pas avoir eu la réussite nécessaire par rapport à la débauche d'énergie qu'on a mis et je pense l'équilibre tactique dans la rencontre.
Une défaite 1-0 à domicile pour les Chamois qui plonge forcément l'équipe un petit peu dans le doute malgré, comme l'a signalé Sébastien Le Sabre, vous l'avez entendu il y a un instant, une débauche d'énergie qui malheureusement n'a pas payé. En face, on se satisfait bien entendu de ces 3 points glanés sur la pelouse de René Gaillard. Un soulagement pour l'entraîneur de l'AC Ajaccio, Olivier Pantaloni, qui conforte la place de son club sur le podium.
C'est un soulagement d'arriver à marquer, mais bon, ça a quand même été laborieux. On a fait une première mi-temps très moyenne, alors même si on a le sentiment d'avoir la possession, ça a été une possession stérile, et on a essayé de rectifier le tir à la mi-temps en demandant aux joueurs d'avoir plus de profondeur. Je pense que c'est ce qui a gêné davantage Niort en seconde mi-temps. De mettre du rythme aussi, d'avoir des changements rapides de côté, de passer beaucoup plus par les extérieurs que ce que l'on avait fait en première mi-temps. Voilà, donc il y a eu du mieux en seconde mi-temps, mais je reste encore un petit peu sur ma faim. Je pense qu'on est capable de faire bien mieux. Sur le plan offensif aujourd'hui, on précipite un peu les choses. Et alors, est-ce qu'il y a de la nervosité due au fait de la crainte du résultat et de se dire il faut à tout prix gagner? Je sais pas. Il faudra que j'en discute avec les joueurs. Mais quoi qu'il en soit, oui, la réalisation sur le but est encore pleine de sang-froid et de qualité technique. Oui.
Olivier Pantaloni, le coach de l'AC Ajaccio hier soir à l'issue de leur victoire sur la pelouse niortaise 1-0. Au micro colline également de Simon Jarnot. Ce week-end, les Niortais pointent au 9e rang du championnat de Ligue 2. Le prochain rendez-vous, ce sera samedi prochain avec un déplacement au Paris FC, puisque nous avons avec nous dans ce studio Jean-Luc Berthaud, le monsieur arbitre du district. J'aurais bien voulu avoir votre sentiment, monsieur Berthaud, sur ce début de saison, en tout cas mi-saison pour les Chamois Niortais. Qu'en pensez-vous?
Alors c'est vrai que les Chamois ont fait un bon début de saison. Ils sont, malgré trois matchs de retard début janvier, ils sont très bien repartis avec 4 victoires, il me semble, voire avec un nul. Et c'est vrai que maintenant, ils sont en une spirale négative. Hein. Malgré ça, ils sont toujours entre la 7e et la 9e place. Mais il va falloir absolument couper cette spirale négative pour redresser la situation. Mais j'ai confiance en eux.
On redresse la situation, on l'espère en tout cas samedi prochain sur la pelouse du Paris FC.
Malgré que ça ne sera pas facile.
Exactement. Jean, on poursuit avec le championnat national.
National, les matchs se sont déroulés vendredi et les Choletais ont été fait match nul à Chambly, 2-2. En National 2, dans le groupe D, les Herbretais se déplaçaient également ce vendredi 4 mars à Angoulême. Défaite de justesse des Herbretais, réduit à 10 à la 53e minute, 1-0. Angoulême qui prend la tête maintenant de ce groupe D où les matchs sont très très importants maintenant, que ce soit pour la montée ou le maintien.
En National 3, Nouvelle-Aquitaine à retenir la victoire de Neuville hier qui recevait Bordeaux 2-0. Le match nul entre Anglet et Châtellerault 0-0. La victoire de Chauvigny sur la pelouse de Cognac 2-1. Victoire de Libourne sur le plus petit des scores 1-0 face à Lèche-Cap-Ferré. Et puis Bayonne s'impose à Poitiers 2-0. À suivre cet après-midi ce derby entre la réserve niortaise face à Bressuire. Tartassi reçoit le stade bordelais également cet après-midi.
Jean-Luc, match important cet après-midi pour les Bressuirais chez les voisins des Chamois Niortais, de la réserve des Chamois Niortais. Quelle impression là, des Bressuirais cette année? Et puis, ce fait un peu historique, puisque le départ aussi de Xavier Bonneau, qui a cette tâche de maintenir les Bressuirais.
Bon, c'est vrai qu'ils ont eu, je pense qu'ils n'ont pas eu de chance au départ. Ils ont eu des blessés, des suspendus. Ça n'allait pas tout le temps dans le sens, parce qu'ils auraient pu gagner quelques points. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, je crois les Chamois ont eu des blessés, des joueurs absents. Donc j'espère qu'aujourd'hui le FCB va récupérer du monde, va faire un résultat à Niort. Hein, c'est tout ce que je leur souhaite, parce qu'en tant que Bocquin, je dis vive le FCB.
Et on va passer maintenant en National 3, celle des Pays de Loire, donc chez nos voisins. Et hier soir, match nul entre Laval et Saumur, 2-2. Défaite de La Roche-sur-Yon au Mans, équipe réserve du Mans, 3-0. Par contre, victoire de la Châtaigret, qui fait du bien au classement face au Poiré-sur-Vie, 2-1. Pouzauges s'est incliné à domicile face à Changer, 1-0. Match nul entre Sablé et Chaland, 1-1. Fontenay bat Sautron 4-0. Et cet après-midi, Saint-Vilbert-de-Grandlieu accueillera Vertoux. On passe maintenant à la régionale 1 avec des matchs hier soir. Derby Niortais, puisque Niort-Saint-Liguer s'impose face à Choret 2-1. Victoire de Buxerolles face à la réserve de Bressuire 4-1. Victoire de Fétia face à la réserve de Poitiers 4-2. Lourd score de Niort-Saint-Florent qui s'incline à La Rochelle 6-0. Et puis Thouars accueillait hier Guéret. Défaite de Thouars 2-0. Et nous avons en direct
tout à fait
le coach
Corentin des Français,
Corentin Maurice. Bonjour Corentin.
Oui, bonjour.
Alors, défaite hier soir qui vient après d'autres défaites en ce début de l'année 2022. Votre impression là sur cette défaite face à Guéret?
Une défaite qui est pas forcément dur à digérer, puisque on a fait dans l'ensemble un bon match, meilleur que les semaines précédentes. Donc le contenu était de meilleure facture face à un très bon adversaire. Mais on a été en danger sur le peu d'occasion de l'adversaire, donc ils nous ont punis assez rapidement et ils ont été efficaces dans les deux surfaces de réparation, ce qui n'est pas le cas de notre côté, puisque défensivement on concède encore deux buts et offensivement, malgré de nombreuses occasions et encore une fois d'avoir touché la barre à plusieurs reprises, on manque d'efficacité. Donc aujourd'hui, le haut de tableau, ça se joue là, sur l'efficacité dans les deux surfaces de réparation.
Est-ce que c'est pas également un manque de réussite?
Ouais, aussi, c'est possible. Et puis la période fait que les joueurs sont certainement un petit peu moins en confiance aussi quand ils sont face au but. Il peut y avoir plein d'explications. Maintenant, il faut savoir se remettre la tête à l'endroit et puis avancer. On a le droit de passer à côté d'un match. Il y a pas de souci par rapport à ça, mais hier soir, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'occasions pour faire beaucoup mieux.
Vous avez une explication par rapport à cette dynamique que vous aviez là en fin d'année 2021 et par rapport à cette situation, même s'il y a sans doute un manque d'efficacité, un manque de chance. Comment vous envisagez maintenant la suite du championnat?
Ben, déjà, il faut retrouver de la stabilité parce qu'on a un effectif qui bouge énormément depuis la reprise. Suspension, c'est l'autre de toutes les équipes évidemment, mais les blessures, dernière minute. Il faut qu'on retrouve une certaine stabilité. Même s'il y a eu des fêtes, il faut qu'on s'appuie sur un système de jeu, sur une façon de jouer pour retrouver un peu une certaine confiance. Donc, faut qu'on travaille absolument sur ça. Et puis, je pense aussi que la trêve, on le dit, mais on le redit, je pense qu'on le dira jusqu'au bout, nous a fait énormément de mal, puisque ça a cassé la dynamique sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan de l'investissement, de l'envie d'aller gagner des matchs dans les dernières minutes, du don de soi. Donc, ça, la trêve a cassé un petit peu tout ça, et je pense que on a du mal à renclencher cette dynamique qui était très positive. Mais faut pas oublier non plus que sur les derniers matchs 2021, on les a gagnés, il y avait des petits signes, des buts encaissés et quand même des performances qui étaient un petit peu moins bonnes aussi. Donc il faut se remettre la tête à l'endroit et retourner de l'avant.
Merci Corentin, et puis bon courage pour la suite de ce championnat.
Merci beaucoup. Merci. Corentin Maurice, l'entraîneur de Thouars, en direct ce matin dans ce sport matin dimanche. À suivre Jean cet après-midi.
Cet après-midi, l'équipe Déchiré Saint-Gelais accueillera celle de Royan-Vaux, et puis Neuilly-Aubier accueillera Saint-Jean-d'Angély à domicile.
Sport matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Quelques résultats à vous rappeler dans le championnat de Ligue 2. La défaite à domicile hier soir sur le fil à quelques minutes du coup de sifflet final des Chamois-Niortais face à l'AC Ajaccio 1-0. À retenir également en régional 1, la défaite de Choré face à Niort-Saint-Liguerre 2-1. Défaite également de Bressuire à Buxerolles 4-1. Niort-Saint-Florent a lourdement chuté sur la pelouse de La Rochelle 6-0. Et défaite aussi des Toircé à domicile face à Guéret sur le score de 2-0.
Sport matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
On reste dans le football avec la Régionale 1 féminine Playdown. Cet après-midi, les Bressuraises affrontent Essine en Régionale 2 dans la poule A. Hier soir, Choret s'incline la réserve face à Parthenay-Viennet 3-0. Victoire de Montcoutan à Mignoux-Sens 5-2. À retenir également la défaite de Périgny qui recevait Nintré 1-0. À suivre cet après-midi, Beaumont face à la Sretaise. Le Talus reçoit Effre et puis Saint-Sauveur jouera à la maison face à l'Étoile Maritime.
Et on passe maintenant, Patrice, à la Régionale 3 dans la poule A. Hier soir, lourde défaite des Cerisiens à domicile face à la réserve de Thouars, 4-1. De la déception pour Jérôme Motin, le coach cerisien.
Match de haut de tableau, match important, un match qu'il fallait pas forcément perdre, mais bon voilà, on est tombé contre un bel adversaire, une équipe qui avait changé 9 joueurs par rapport au match aller. Alors je pense que pour eux aussi c'était très important, sachant qu'ils sortaient de 3 défaites et que s'ils gagnaient pas, ben ils décrochaient le haut du classement. Alors voilà, ils sont venus avec une équipe très très compétitive. J'ai la frustration parce que c'est vrai qu'on a un peu refusé le jeu avec des idées d'avoir un bloc bas. Ça a été respecté et bien compris sur la première mi-temps. On revient à 0-0. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, un but dès le premier quart d'heure nous met en difficulté. Et derrière, ben, on a pris un peu plus de risques, on a laissé plus d'espace et on a été puni quasiment à chaque sortie de toit. Frustré du résultat, voilà, c'est pas fini. On a vu que c'était un championnat avec sur qui on pouvait compter sur 5 équipes. Je pense qu'il y aura encore des résultats positifs. À nous de continuer à bien travailler pour vite répondre présent à nier l'espoir et à repartir de l'avant.
Un score qui peut apparaître lourd par rapport à la physionomie du match, mais dû à une volonté du CO Cerise de revenir au score sur les 10 dernières minutes.
C'est ça, on était obligé de prendre des risques à 2-1, on était obligé de tenter un coup, il restait un quart d'heure. On s'est livré, on a laissé plus d'espace et c'est des petites erreurs techniques qui font que ben, on les relance, on les remet en marche en avant et on se fait punir. Et voilà, il faut continuer à bosser. On a pas mal de pépins physiques, on se cache pas derrière ça. Mais voilà, il faudra retrouver tout l'effectif pour pouvoir espérer continuer à rester en haut.
Des Cerisiens qui, samedi prochain, se déplaceront à Nieul-l'Espoir qui a fait match nul hier à Nord 17, 0-0. Cet après-midi, Aubin-Rortet reçoit la réserve de Buxerolles. Terve se déplace chez la réserve de Châtellerault. Derby entre le Pays de Loing et Saint-Varan-Pierget, tandis que Sacerbouille accueillera la réserve de Neuville. Dans la poule B de cette régionale 3, hier soir, Selverine s'est imposée face à la réserve de Ligugé 2-1, tandis que les Portugais de Châtellerault s'imposaient au Pays Saint-Maixentais 2-1. Cet après-midi, le Pays Mélois se déplace à Vic-Gartempe et Entrant se déplace à Vouillé. Dans la poule C de cette régionale 3, Saint-Palais s'impose face à Niort-Saint-Liguerre, la réserve de Niort-Saint-Liguerre 5-1. Et cet après-midi, la réserve de Niort-Saint-Florent accueillera Dompierre-sur-Mer. Un petit mot, Jean-Luc, sur la prestation des équipes cerisiennes dans ces poules régionales, que ce soit en Régional 1, Régional 2, Régional 3.
Au niveau des équipes de Cerisay en général. Partenay, qui a fait une victoire à Chauray, qui n'est jamais facile, parce que la Chauray avait quand même battu l'Étoile Maritime. En étant en Chauvin, j'espère que Saint-Sauveur va jouer le jeu cet après-midi pour battre l'Étoile Maritime, pour que Partenay puisse monter en R1, c'est ce que je leur souhaite. Et concernant le R3, Terve, Pays de Loing, c'est compliqué, hein, en queue de tableau. Au Barortais, au milieu de tableau, ça s'est rebouillé également. Cerisay peut encore se rapprocher avec toi, ça va dépendre du résultat de Châtellerault. Et concernant les autres poules, Selverine, c'est très serré dans la poule B. Saint-Liguerre est un peu à la traîne à la poule C. Hein. Mais je pense que par rapport aux descentes de N2, on n'aura peut-être qu'une descente de R3, qui n'aura pas trop de conséquences sur l'AD1.
On passe aux championnats départementaux. En départemental 1, à retenir la défaite de Val à domicile face à Saint-Aubin-le-Clou 1-0. Sur le même score, Pays Argentonais s'impose à Hervaux Saint-Juin. Et puis le match nul entre Ardin et Échiré-Saint-Gelais, 1-0. Cet après-midi, Avenir 119 accueille Vrines. Bressuire reçoit les voisins de Neuilly-Aubier. Frontenay-Saint-Symphorien jouera à la maison face à Interbocage.
Et on passe maintenant, pour terminer cette rubrique de football, à la départementale 2, là, dans la poule Nord. Hier soir, Beaulieu-Breuil s'impose à Chanteau-Courlay-la-Chapelle 1-0. Et cet après-midi, les Portugais de Cerisay recevront Buslor. La réserve de l'Interbocage accueillera l'équipe des Mahorais. Louzy accueillera le Pays Tenzéen. La réserve de Saint-Varan-Pierget sera opposée à la réserve de Cerisay. Et Vraire-Saint-Léger à domicile accueillera le Talus. Dans la poule départementale 2, dans la poule Sud, Dans les derbies boutonnais, eh bien, score de parité 0-0. Et cet après-midi, Effre, la réserve d'Effre accueillera Gatifoot. La réserve B de Choret accueillera Brulin. La Crèche se déplacera à Lezay. Mosée sur le Mignon se déplacera à Sud-Gâtine. Et Val-de-Sèvre accueillera Beauvoir.
Vous ne bougez pas dans un instant. Sport Matin Dimanche revient avec le basket.
Sport Matin Dimanche avec Sirier Automobile. Vente et réparation de véhicules toutes marques. Entretien des routes départementales, mobilité douce, covoiturage, transfert des routes nationales. Partagez vos idées, posez vos questions, contribuez à la réflexion du département. Coralie Desnoux et Philippe Brémond vous donnent rendez-vous pour un live sur les réseaux sociaux, lundi 7 mars à 18h30 sur Facebook, YouTube et dès maintenant sur 2-sèvres.fr. Une initiative du département des Deux-Sèvres.
Entrez dans la mêlée et soutenez-les. Car c'est grâce à vous qu'ils vont se surpasser. Dimanche 6 mars à 15h, le Club 79 affronte Ambarès. Rendez-vous au stade Alain Métayer pour supporter le club Ovalie de Bressuire. Allez au contact et vibrez rugby avec Colline, partenaire du Club 79.
Parrainé par le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, participez à la journée nationale de l'audition. Et cette journée appelée JNA aura lieu le jeudi 10 mars 2022. Toutes les informations sont à découvrir sur www.journée-audition.org. Informez-vous sur tout ce qui gravite autour de l'audition et soyez acteur dans la prévention pour le confort auditif. L'association JNA, c'est 25 ans d'action au service de votre santé. Totalement concernés, Audition Conseil Bressuire et Audition Moléon ont depuis longtemps fait du bien entendre leur priorité pour toujours mieux vous servir. Dimanche, avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Nous parlons donc maintenant basket et le championnat élite. Cholet jouait à domicile hier soir face à Chalon-Reims. Victoire de l'équipe des Mauges, 75 à 56. Une belle victoire à l'image de la détermination de l'équipe pour le coach Cholet Laurent Villa.
Ça a été vraiment un très bon état d'esprit, beaucoup d'enthousiasme, de détermination. Franchement, l'expression qu'il y a eu sur le terrain défensivement, l'agressivité qu'il y a eu est vraiment remarquable pour limiter cette équipe de Chalon-Reims. C'était vraiment le plan idéal. Bien sûr, par rapport à l'idée du match, c'était de défendre très très fort. Vraiment, les gars ont fait un gros boulot. Et vraiment, c'est bien quand toute cette équipe-là, tous ces joueurs-là s'impliquent autant, partagent autant, parce qu'on était connectés, on a beaucoup communiqué. Bon, franchement, félicitations à ce groupe de joueurs. On l'a vu, hein, c'est rare qu'on défende aussi fort et qu'on limite nos adversaires comme ça à si peu de points. Surtout, pour moi, Chalon-Reims, c'est une équipe très offensive. Hein, ils sont à plus de 82 points par match avec leurs joueurs intérieurs qui ont un gros impact. Là, ils ont marqué, je crois, 5 et 3 points, quelque chose comme ça, Lawal et Sako. Par rapport au match aller, justement, il y a... C'est complètement un match différent et notre défense a été très très consistante. Vraiment, je suis très content ce soir par rapport à ce travail-là.
La satisfaction du coach de Cholet Basket, Laurent Villa, après la victoire de son équipe à domicile hier soir face à Chalon-Reims, 75 à 56. Match que vous avez pu suivre en direct sur Colline, la radio. Toujours en basket, Jean, on passe à la Ligue féminine.
Féminine, hier soir, défaite des Angevines à domicile face à l'équipe de Lyon-Asvel, 77 à 60. Et défaite également à domicile de La Roche-sur-Yon face à Montpellier, 78 à 60. 15 en National 2 masculine dans la poule B. Nous n'avons pas les résultats de la Senior qui se déplaçait à Montgaillard et en National 3 dans la poule D. Cet après-midi, Bressuire recevra la couronne et Choret se déplacera à Tulle.
En National 3 masculine, hier soir, déplacement de Bressuire à Tulle. Victoire des Boquins 92 à 91. Une victoire à l'arraché. Retour sur cette fin de match quasi improbable avec l'entraîneur bressuré Benoît Baptiste.
Les 25 dernières secondes, c'est un peu particulier. On est à moins 1. On a la possession parce qu'on a réussi à la récupérer et puis il reste très très peu de secondes, il doit rester 8 secondes en tout, il faut traverser le terrain et bah là on ribarbeille quoi, il prend la balle, il se stoppe à 3 points, il tire, il marque. Non, il était en moins 2 je crois, pardon, moins 2. Donc on passe à plus 1, il reste moins de 2 secondes à jouer, temps mort adverse. Et là on s'est dit il fallait échanger sur tous les écrans et qu'on empêche les gens de rentrer dans la raquette. Et là on est plutôt pas mal sur leur mise en jeu et à un moment donné il y a un de nos joueurs qui s'est oublié et il y a un joueur adverse qui est tout seul dans la raquette, il a la balle et là on s'est dit c'est bon, c'est fini. Sauf que ce joueur-là il tire et il rate son tir près du cercle tout seul. Le match se termine, on gagne. Voilà, c'est comme quoi le basket ça joue vraiment jusqu'au bout. On revient de nulle part, c'est pas vraiment ça, parce qu'on a quand même 13 points d'avance à la fin du premier quart-temps. Derrière, dans le deuxième quart-temps, bah, on s'est dit, tiens, c'est bon, on a 13 points d'avance, c'est facile, ils sont derrière nous, ils vont jamais revenir. Mais sauf qu'on n'oublie pas que c'est une équipe qui joue chez elle, qui a pas de victoire, enfin, qu'on a que deux, et, bah, ils souhaitent en avoir d'autres, quoi. C'était l'opportunité d'essayer d'en récupérer une à la maison. Donc, bah, ils reviennent tranquillement parce qu'ils sont opportunistes. Et nous, bah, on baisse les bras parce qu'à chaque fois qu'on prend un panier, bah, ça y est, c'est dur, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, on se partage moins la balle, donc à la mi-temps, on a moins 2, à la fin du troisième, on a moins 6. Et puis bah là on commence à cogiter, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où dans les têtes on n'est pas prêt à être sur l'adversaire et aller chercher des fautes ou à montrer qu'on est agressif, et bien il se passe rien. Par contre dès qu'on l'a fait, on est revenu grâce à ça, on est repassé devant, on a gagné. C'est juste il fallait remettre le curseur d'agressivité plus haut.
Mettre le curseur un peu plus haut, une belle et juste improbable victoire des Bressurés hier soir, avec toujours en ligne de mire, toujours et encore le maintien dans ce championnat de National 3.
C'est très compliqué puisque nos adversaires directs on n'a pas le point d'avérage sur eux, ça dépendra aussi de leur résultat, donc on n'a pas notre avenir entre nos mains, mais ça entretient l'espoir, ça fait du bien au moral aussi. On a 5 victoires, la semaine prochaine on reçoit Limoges qui n'a pas gagné encore et ça va être le même profil d'équipe, ils vont rien lâcher, donc ça serait bien aussi qu'on à la maison qu'on signe une nouvelle victoire, qu'on soit à 6 et là l'objectif c'est qu'on finisse avec le plus de victoires possible et bah après sait-on jamais, peut-être qu'il y a des équipes qui sont dans des pénalités, peut-être que voilà, enfin on verra à la fin, mais toujours est-il que ça fait toujours du bien de gagner plutôt que de perdre.
Donc on appelle à la mobilisation pour samedi prochain.
Exactement, et il nous restera 3 matchs à domicile, on reçoit le dernier, dans la foulée on reçoit le premier, donc ça va être 2 matchs vraiment totalement différents. Ben voilà, il reste 3 matchs à domicile et le dernier contre un concurrent direct. Voilà, si les gens viennent, ben ça va nous galvaniser pour aller chercher ces victoires.
Benoît Baptiste, l'entraîneur des Bressurés au micro-colline de Vincent Dorive. Belle victoire donc des Bressurés hier à Tulle sur le score de 92 à 91 en pré-national féminine, à suivre cet après-midi. Le déplacement de Chauray à Bassens. Étré reçoit la réserve de Bressuire en pré-national masculine. Châtellerault s'est imposé face à Niort 70 à 69. Des défaites de Bressuire face au Stade Poitevin 90 à 61. Et nous n'avons pas le résultat entre Chauray et Saint-Rogatien. Après le basket, Jean, on passe au handball.
Handball avec les Montcoutantaises qui recevaient hier soir le club de la Côte Basse. Défaite des Montcoutantaises 33 à 29 et de la frustration pour Emilien Larrière, le coach montcoutantais.
C'est un bon début de match puisque je crois qu'on mène 5 ou 6-0. Donc on est bien rentré dans la partie. C'est ce qui nous avait un peu fait défaut sur nos matchs précédents. Donc là au moins on peut pas se reprocher ça. Maintenant derrière le manque de rotation nous a un peu fait souffrir dans le rythme du match et dans la capacité à continuer à jouer sur ce rythme-là. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Mais écoute, c'était pas une mauvaise partie. Il fallait juste qu'on soit plus précis et je pense peut-être plus expérimenté pour casser le rythme à un certain moment qui nous aurait permis de contrecarrer un peu la fougue et la vague de nos amis basques. Voilà. On avait une équipe qui était diminuée par les absences. Donc à un moment donné, on était sûr et certain que le manque de rotation nous pénaliserait face à une équipe qui met beaucoup de rythme. Alors on a essayé de proposer d'autres alternatives sur le plan tactique, ça a plutôt fonctionné, donc ça c'est aussi des points positifs à retenir. Bien entendu qu'il y a de la frustration et il y a même de la déception. À un moment donné, les joueuses étaient un peu déçues hier soir à l'issue de la rencontre, parce que quand on est proche de pouvoir remporter une partie et qu'on ne le fait pas, la frustration elle est d'autant plus grande. Si on n'avait pas existé dans la rencontre, on n'aurait pas été frustré. Maintenant, on on est frustré de pas gagner contre l'équipe qui fait partie du trio de tête. Donc on a été frustré de pas gagner contre Mios qui est la meilleure équipe collectivement de la poule, et on est frustré de pas gagner contre Côte Basque. Donc ça montre aussi que les joueuses ont l'ambition de performer et ne se contenteront pas simplement de matchs moyens ou de performances en toute sommaire et dans un contenu qui serait alors pour nous acceptable, mais pour elle voudrait toujours plus en fait. Voilà, c'est quelque part une bonne source de motivation sur les prochaines essais. Derrière, on a deux matchs qui arrivent contre Mourinx, on a un long déplacement à Mourinx et la réception de Mérignac. Voilà, il va falloir aussi valider tout simplement le travail qu'on a fait, parce que on travaille bien, les joueuses bossent vraiment bien, même parfois dans des conditions avec des effectifs restreints. Là, elles n'ont pas la. Ça se matérialise pas en termes de résultats, parce qu'on joue aussi, quand on joue les grosses équipes comme Côte Basque ou Mios, forcément, c'est plus compliqué. Mais on a aussi vu, quand on a joué Borde, que le travail paye, et puis la victoire, elle a pas eu à souffrir d'aucune contestation, je crois, la dimanche dernier. Donc c'est ça aussi, à un moment donné, le trio de tête, c'est encore pas le championnat de Montcoutan. Ça le sera peut-être dans un futur plus ou moins lointain, mais pour le moment, le trio de tête, c'est pas le championnat de Montcoutan. Le championnat de Montcoutan, c'est se maintenir. Et je pense qu'on est en passe de réaliser cet objectif et de oublier que le club est encore un jeune club en N1, qu'on avance petit à petit. Et je trouve ça quelque part positif qu'on soit déçu et frustré parce qu'on joue la 6 ou 7e place du classement et qu'on voudrait plus. Ça prouve aussi que chaque année on avance petit à petit et il faudra valoriser ça encore dans les saisons qui viennent.
La frustration d'Emilien Larrière, l'entraîneur des Montcoutantaises, qui se sont donc inclinés hier à domicile face à Côte Basque sur le score de 29 à 33. On poursuit avec le handball, Jean.
Et un petit clin d'œil à une des joueuses Montcoutantaises, la jeune salvatorienne Alexia Genet, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire, Alexia. Et on continue effectivement en National 2, dans la poule 2 féminine. Hier soir, les Celloises se sont imposées à Vierzon, 31 à 22. Jean-Luc, malgré cette forte implication dans le football, on suit les résultats de basket et de hand de la région?
Oui, c'est vrai que je regarde tous les résultats au niveau sportif, hein, que ce soit le hand, le basket, le vélo. Je regarde aussi les performances de Sévrien et de Choletais, parce que je suis quand même à la limite du Maine-et-Loire et je regarde au niveau du Choletais aussi.
On passe donc maintenant au rugby et le top 14. La victoire hier de La Rochelle face à Brive, 41 à 15, à suivre en honneur promotion cet après-midi. La rencontre entre deux voisins, Thouars reçoit Cholet en préfédéral 1 cet après-midi. Chauray se déplace à Cadojac, Parthenay reçoit Royan en régional 2. Également aujourd'hui, le COB accueille Ambarès en régional 3. Loudun accueille Mel, Saint-Mexant reçoit Ponce. Et puis en bref, Jean, quelques performances à retenir.
En athlétisme, hier, la performance du Niortais Valentin Potier dans le concours B de la Perche Élite Tour à Rouen, où il a franchi 5m41. Victoire également de Sophie Stenou devant sa camarade de club Pauline Ouzi du Running Niort dans la course aux Filles de l'Eau, hier à Magnier, sur une distance de 7 km, course exclusivement réservée aux féminines. Et puis en judo, soulignons donc la Niortaise Pauline Cuc qui s'est inclinée en finale des championnats de France junior face à la Bordelaise Léa Berès.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le tennis, et plus particulièrement le tennis fauteuil. Depuis un an maintenant, le club Bressuré a ouvert une section tennis fauteuil, également ouverte aux valides. L'objectif là est de multiplier la pratique du tennis assis dans les Deux-Sèvres pour favoriser d'une part la pratique d'activités physiques et sportives, et tous les âges, pour tous les âges de la vie, et pourquoi pas accéder à la compétition. Écoutez Pierre Gendrouillard, le président du TCB.
J'ai pris conscience qu'un joueur valide pouvait jouer en fauteuil. Et donc ça concerne des joueurs valides qui ont des petites blessures et qui veulent continuer à jouer au tennis, avoir toujours les coups droits et revers, mais bon, en plus, je veux dire, en prenant soin de soi, quoi, après des blessures. Et donc les deux sont très sympas. Et c'est vrai que le fauteuil est très sportif. Hein. C'est,
on peut dire que ça doit être difficile.
Ouais, mais une heure de tennis fauteuil, on voit bien le maillot, hein, c'est très, en plus c'est assez sympa à jouer, et puis l'ambiance est bonne, c'est physique, Et donc pour nous, c'est une autre discipline du TCB.
Et ça commence à prendre, ça prend bien?
Oui, oui, pour le moment, là, il y a 7-8 joueurs à basculer. Donc voilà, plus on sera nombreux et plus cette discipline partira, quoi. Mais oui, oui, ça prend bien. Ouais. Le plus dur, c'est de rouler. En fait, le joueur de tennis conserve son coup, mais c'est d'apprendre à rouler, d'apprendre à anticiper les balles. On a deux rebonds, mais c'est d'apprendre à partir du bon côté, tourner le fauteuil. Donc ça, c'est le plus difficile. Et on arrive à jouer au tennis en fauteuil quand on sait bien rouler en fauteuil. Ça, c'est la règle numéro un, quoi. C'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance avec les gens qui, malheureusement, ont des handicaps, mais c'est des gens souvent très sympas, assez joyeux, et c'est très plaisant d'être parmi eux, quoi. Donc je pense qu'on va avoir un très beau tournoi. Et je veux dire, la formule est à découvrir. Donc on va tous se découvrir au mois de décembre, et on a hâte de voir ce que ça va donner.
Effectivement, au mois de décembre prochain, les cours du TCB seront le théâtre du premier Open de France de paratennis, co-organisé avec le club d'Hervaux, qui a déjà une expérience dans cette discipline, puisque le 4 septembre prochain se déroulera la 4e édition de son TMC. Comprenez tournoi multichance. Profiter des infrastructures bressuraises en cette fin d'année 2022 va offrir au tennis fauteuil une visibilité plus importante. Détail avec le président du tennis club d'Hervaux, Stéphane Kiesling.
Un tableau avec des joueurs professionnels sous l'égide de Stéphane Audet, champion olympique et porte-drapeau des Jeux Olympiques de Tokyo. Un deuxième tableau sur ce qu'on appelle un TMC, tournoi multichance, pour les joueurs de niveau régional et national. Et nous ferons un troisième tableau, ce qu'on appelle le rolling tennis, là où on peut dissocier les gens qui ont handicap, sans handicap, mais qui jouent en fauteuil ou debout.
Alors c'est une nouvelle appellation, justement, ce rolling tennis.
Ouais, tout à fait. C'est qu'on parle aussi de tennis fauteuil, de tennis assis. Bon, c'est pas toujours clair dans l'esprit des gens. Le rolling tennis, c'est le tennis qui roule. Donc en fin de compte, du moment qu'il roule, on met qui on veut dans le fauteuil. Donc on met quelqu'un qui a un handicap ou quelqu'un qui est valide. Le principal, c'est qu'on roule. Ils vont jouer au tennis en roulant.
Avec des règles qui vont être adaptées, en fait.
Voilà, l'idée, c'est de tester pour la première fois en France des joueurs valides ou non valides qui jouent en fauteuil contre des joueurs valides qui jouent debout. Mais comme des fois on a un souci de niveau de déplacement et de rapidité, eh bien on va modifier les règles en instaurant quelque part un nouveau tennis pour voir si on peut équilibrer des gens valides qui joueraient de manière plus compétitive face à des gens qui sont en fauteuil et vice versa. Donc en fin de compte, c'est quoi? C'est chercher le plaisir réciproque.
Vous avez une super porte d'entrée, c'est ce fameux tournoi élite, on va dire, avec les meilleurs joueurs mondiaux. Vous avez envie de faire un Roland-Garros, hein?
Ouais, c'est ça. C'est en tout cas avoir des joueurs pros. Quand on a, alors c'est des joueurs pros qui jouent en paratennis, donc en fauteuil, mais quand on a le médaillé d'or olympique en simple qui sera en japonais, quand on a Stéphane Oudet, médaillé d'or olympique avec Nicolas Pfeffer en double, porte-drapeau d'équipe de France, et on va avoir donc quasiment dans les 10 meilleurs mondiaux à Bressuire, c'est comme si Bressuire, on avait demain Federer, les 10 meilleurs joueurs mondiaux, simplement ils jouent en fauteuil. Et là, ces sportifs de haut niveau, j'espère, vont nous aider à promouvoir, à changer le regard qu'on peut être en fauteuil, prendre du plaisir et faire de la compétition. Et quel que soit le niveau, on peut prendre du
plaisir. Et puis en plus, l'idée, ça va être aussi de montrer aux gens qu'on peut jouer au tennis pendant très longtemps, même si on est un peu blessé aussi, ou même si on est blessé un peu définitivement.
Ah, c'est exactement ça. Ce qui est sympa avec le fauteuil, c'est qu'on peut avoir 20 ans, 30 ans, 50 ans, on peut tous jouer en fauteuil. Et on n'a pas besoin d'avoir l'handicap pour jouer en fauteuil. Alors ce qui est sympa, c'est quand on a des joueurs ou des non-joueurs de tennis, c'est qu'à un moment donné, ils ont une petite hanche avec avec des petits soucis de santé, un genou qui a été opéré ou qui ont des difficultés, eh bien, c'est de nouveau praticable avec un fauteuil. C'est-à-dire qu'on peut continuer à jouer, à transpirer, à se faire plaisir, sans forcément être debout comme avant. Ce qui est intéressant, c'est que dans les Deux-Sèvres, on est plusieurs, entre autres avec Chouret, à vouloir développer cette activité, et Bressuire a une vraie sensibilité. Les installations et la sensibilité. On a 6 fauteuils à Bressuire, avec des moments particuliers, comme le jeudi soir à 18h, ceux qui veulent venir jouer en fauteuil peuvent venir, on les accueillera, et on les aidera, on leur apprendra à jouer. Donc oui, il y a une vraie volonté de synergie entre les deux clubs, bien sûr.
Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir sur ce premier Open de France de tennis fauteuil en décembre prochain à Bressuire. Reportage signé Vincent Nourry.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, on parle maintenant vélo avec le 23e prix André Decoux cet après-midi à Gourget. Prix André Decoux, du nom de celui qui a créé le VC Châtillonnais il y a maintenant 45 ans. Après deux saisons largement tronquées par la crise sanitaire, le cyclisme reprend donc ses droits avec l'ouverture de la saison en Gâtine ce dimanche. Yannick Daubigny, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce SMD. Vous êtes l'un des deux coprésidents du VC Châtillonnais. Alors, c'est intéressant, je suppose, d'ouvrir cette saison sur route, car les coureurs voudront, je l'imagine, se tester dès cet après-midi.
Oui, ça c'est très très intéressant, si en plus le temps est de la partie, ce qui me semble être le cas. Les gens sont, comme on dit, dans les starting blocks, hein, les coureurs sont prêts et ont envie d'en découdre. Hein. C'est vrai que le début de saison est toujours très actif, et aussi bien en qualité qu'en nombre de participants.
Alors qui sera sur la ligne de départ cet après-midi? Les forces en présence, les différentes catégories?
Alors, nous aurons une catégorie, disons, régionale, nationale, avec une deuxième, troisième catégorie et junior, qui vont courir à peu près sur une centaine de kilomètres, hein, et après 105-600 kilomètres exactement. Et après, nous aurons une quatre catégories départementales, D1, D2 ensemble, qui vont courir pour 70 km 400, et en D3, D4, qui vont courir sur 52 km 800. Voilà, donc ce sont ce qu'on appelle les passes cyclistes départementaux.
Alors, quelle est la moyenne d'âge des coureurs engagés aujourd'hui?
Alors, disons, sur la catégorie nationale-régionale, ce sont des coureurs assez jeunes, hein, en général, puisque là, on va trouver des coureurs qui roulent quand même très très vite et qui ont besoin d'un entraînement assez soutenu et tout pour faire ce type de course-là, hein, une centaine de kilomètres, 105 kilomètres, ça se fait pas n'importe comment, avec des moyennes de plus de 40 km/h, hein, donc ça demande un minimum d'entraînement. Et puis ce sont des gens qui vont avoir entre 20 et 19-20 ans à 35-40 ans, quoi, hein, 45 ans, voilà. Après, dans les catégories départementales, on va trouver des gens qui font plus du vélo loisir, en quelque sorte, hein, plaisir, loisir, et en départemental 3 et départemental 4, on a des gens qui ont un certain âge. Le vélo a ça d'intéressant, c'est qu'il permet de garder la forme jusqu'à... On aura peut-être des gens de plus de 50 ans, hein, certainement.
Alors, Yannick Daubigny, présentez-nous en quelques mots le circuit que vont emprunter les coureurs cet après-midi. Quelles sont les difficultés, si tant est bien entendu qu'il y en ait?
Alors, le circuit, il a lieu sur la commune de Gourget, hein, il fait 8 km 800 exactement, et il n'est pas simple du tout, puisque dans la côte d'arrivée de Gourget, c'est assez important, assez difficile, et à la sortie de Gourget, on a un long flot plat de plus d'un kilomètre, et si le vent est défavorable, eh bien ça met à mal un peu les velléités de tous nos concurrents.
Alors toutes catégories confondues, je crois qu'ils sont quelques 150, hein, au départ cet après-midi. Départ donné à quelle heure d'ailleurs?
14h30 pour les champions, si on peut dire, hein, la catégorie, les deuxième catégorie, troisième catégorie à 14h30, et puis 2 minutes après nous aurons les D1 et D2, et puis 2 minutes après encore nous aurons les D3, D4.
Une belle épreuve donc de cyclisme cet après-midi à Gourget avec le 23e prix André Decoux, dont le premier départ, vous l'avez entendu, sera donné à 14h30. Yannick Daubigny, co-président du VC Châtillonnais, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans ce Sport Matin Dimanche.
Merci, au revoir.
Ce Sport Matin Dimanche se poursuit, Jean, avec notre invité Fille Rouge.
Voilà, merci Jean-Luc Berthaud d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes né le 17 mai, très belle date, 1961. Oui, vous habitez à Moulins et vous avez exercé, avant d'être en retraite, la profession de conducteur routier. Vous êtes marié et le papa de deux filles qui sont très sportives. L'une pratique le football à Cholet et l'autre le basket. Vous êtes actuellement vice-président du district de football des Deux-Sèvres, mais vous êtes surtout connu pour votre fort engagement et même plus dans l'arbitrage, et nous allons en parler. Mais auparavant, quelle a été la pratique sportive de Jean-Luc Berthaud?
Donc à partir de, à l'époque, j'étais pupille, j'ai commencé en pupille, en temps à jouer au foot, hein, jusqu'à 28 ans. Hein. J'ai joué au plus haut en 3e division, et après j'étais redescendu en 5e division, et c'est là-dessus que je me suis lancé dans l'arbitrage.
Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'arbitrage à 28 ans?
Ce qui m'a amené à l'arbitrage, j'avais un comportement assez rugueux sur le terrain. Et le jour où j'ai pris ma décision, c'était un match contre Cerizet, où il y avait Jean-Pierre Guichetot, qui était dirigeant à l'époque de cette réserve de Cerizet. Et Jean-Pierre me dit, le coach m'avait sorti, j'avais pas été exclu, et Jean-Pierre me dit, il vaut mieux que tu te lances dans l'arbitrage, ça t'ira mieux. Et en effet, je suis parti sur l'arbitrage suite à ça.
Alors l'arbitrage, c'est un élément très important pour le football. Quelle est la situation aujourd'hui de l'arbitrage dans les Deux-Sèvres ?
Bon, globalement, l'arbitrage dans les Deux-Sèvres se portait très très bien. On est quand même le deuxième département au niveau effectif par rapport à... Bon, le numéro 1, c'est automatiquement la Gironde, avec 45 000 licenciés et 500 arbitres. Nous, avec 16 500 licenciés, donc on est à 232 arbitres actuellement. Je pense qu'on va arriver à 237-238, et on a fini la saison dernière à 242. Donc globalement, ce n'est pas trop mal. Mais je commence à tirer la sonnette d'alarme, parce que la situation commence à devenir préoccupante, parce que l'âge des arbitres grimpe très sérieusement.
Dans l'arbitrage, effectivement, le département des Deux-Sèvres est reconnu, grâce à votre action d'ailleurs, comme étant un département plutôt bien fourni. Deux éléments, effectivement, aujourd'hui posent un peu de problème. C'est le respect de l'arbitrage, le respect des arbitres par les joueurs, par les dirigeants, par les supporters. Comment abordez-vous un petit peu cette première problématique?
C'est vrai que pour cette reprise de cette saison, on avait... pas spécialement connu ça, et on a des dossiers disciplinaires, c'est presque tous les 8 jours qu'il y a des dossiers qui sont transmis à l'instructeur, et ça nous inquiète fortement. Le président de district a fait paraître un mot sur il y a 3 semaines à moi, et ben on voit encore pas plus tard que le week-end dernier que ça dérope encore. Alors je pense qu'il va falloir frapper encore de plus en plus fort pour ces gens-là, hein, je dis bien qu'ils n'ont rien à faire sur un terrain de foot. Je ne parle pas de ceux qui font un tacle dans le jeu, hein, je parle de ceux qui sont hors du football et qui n'ont rien à y faire.
Alors, il y a aussi le recrutement des arbitres, vous en avez parlé. Comment on peut convaincre un jeune d'entamer cette démarche? On a des exemples de réussite, je pense au jeune Fridolin Gilles, avec cette possibilité maintenant aussi d'intégrer des sports-études. Quelles sont les démarches pour d'abord convaincre un jeune de s'engager dans l'arbitrage et puis ensuite de pouvoir faire sa formation?
Mais les jeunes, on arrive à peu près les clubs arrivent de les convaincre. Je parle bien des... Par contre, 13 ans, c'est beaucoup trop tôt, parce qu'ils ont le droit à partir de 13 ans. Pour moi, 13 ans, c'est trop tôt. Mais à partir de 15 ans, on arrive de les convaincre. Mais après, c'est surtout... Il faut les suivre. On a mis en place une commission d'accompagnateurs qui les accompagne pour 8 ou 9 matchs. Et en fonction, même quand ils le demandent, on les accompagne. Et par contre, c'est vrai que quand ils sont dans les Deux-Sèvres, ça se passe très bien, parce que beaucoup de compétitions jeunes où on a des obligations avec 3 arbitres, mais où on a regretté, c'est qu'on a eu un jeune qui faisait partie comme Fridolin de la section et qui a été sur un autre département où il était tout seul. Et face aux parents, face aux éducateurs, et ben, il s'est dégoûté et maintenant, ça y est, il a quitté sa fonction d'arbitre. Et c'est vrai que par contre, pour les jeunes, ça forge un caractère quand même, hein, parce que... Il faut voir ce qu'ils entendent quelquefois.
Alors, il y a aussi la possibilité de l'après-carrière de footballeur, d'intégrer l'arbitrage. Quelles sont les actions qui sont conduites avec les clubs pour essayer de recruter justement des joueurs qui s'arrêtent vers la trentaine, un peu plus tard, pour s'investir dans l'arbitrage?
Alors là, pour cette année, avec Anthony Michaud là, qui a remplacé Thomas Brossard qui est parti en Guadeloupe comme conseiller technique régional. Donc Anthony Michaud, par contre, là, moi j'avais demandé à ce qu'il soit entièrement consacré à l'arbitrage. Donc il est entièrement consacré à l'arbitrage. Il organise des stages. Il a préparé toute une campagne de recrutement qu'on va mettre en place, qu'on a commencé à présenter à une centaine d'arbitres seniors actuellement, hein, parce que les meilleurs pour proposer inciter les gens à l'arbitrage, ce sont les arbitres, hein. Et donc on a mis ça en place avec l'aide du comité directeur qui va, parce que tout arbitre qui va être recruté entre 20 ans et 40 ans aura une tenue complète d'offerte, maillot, short, chaussettes, et le parrain aura une carte Intersport pour le récompenser. Hein. Donc c'est une opération qui a commencé au 1er février et qui va se prolonger jusqu'en juin 2023, hein, et avec l'aide du comité directeur.
Alors, bien entendu, l'investissement personnel dans l'arbitrage, pour ce qui vous concerne, est important. Comment se déroule un week-end de Jean-Luc Berthaud? Là, depuis le début de l'émission, vous avez au moins une dizaine de messages ou une dizaine d'appels à rappeler, là.
Mais oui, parce que tous les week-ends, je m'occupe de faire tous les changements. Parce que moi, ma politique, j'étais élu, je suis au service des clubs, donc c'est ma priorité. Ce sera toujours ma priorité tout le temps que je serai là, hein. Parce que les clubs, ils ont déjà des difficultés à trouver des dirigeants. Hein. Donc, c'est vrai que ce matin encore, j'ai reçu deux ou trois appels là qu'il va falloir que je remplace des arbitres. Hein. Bon, mais j'essaie de faire au maximum. Et bon, c'est vrai que c'est une fonction très prenante. Hein. Là-dessus, je peux remercier ma famille, parce que pas plus tard que jeudi, j'étais à Niort au district. J'accompagne Jean-Pierre Maudet qui est la commission de discipline. Mercredi, j'étais toute la journée. Vendredi, j'ai passé la journée à Bordeaux en CRA. Hier, j'accompagnais un jeune. Il y avait un examen d'arbitre appartenu hier matin. Hier après-midi, en venant à Bressuire, j'ai accompagné un nouvel arbitre qui a commencé au mois d'octobre. Aujourd'hui, je suis ici. Le week-end dernier, bah, j'étais sur un match de jeunes accompagné. Après, on m'appelle parce qu'il y avait un souci sur un match à Tenzet. Je suis parti à Tenzet. Après, il y a eu le fameux match dimanche où Fred de Habreux m'appelle. Donc, j'étais le rejoindre. J'étais à Neuilly-Aubier, j'étais le rejoindre à Saint-Sauveur. Donc, c'est vrai que. Je m'ennuie pas.
Comment on explique justement, Monsieur Berthaud, le football amateur, c'est du football plaisir. Comment on en arrive là?
On a du mal vraiment à l'expliquer, mais c'est surtout les joueurs. À part quelques exceptions, les joueurs, ça irait encore. Mais c'est ces spectateurs autour du terrain.
C'est tandis qu'on puisse les appeler des supporters d'ailleurs.
Des supporters, oui. Pas plus tard qu'hier, on avait quand même couvert un match de U15-R2. On avait mis deux assistants, deux délégués. Bon, ça s'est très bien passé parce que c'est pas les joueurs, hein. C'est l'environnement. Et après, on avait sur un autre match de U18, c'est pareil. Et bon, il a fallu que le dirigeant, il sorte quelqu'un du stade qui n'avait rien à faire. Dès le début du match, il a commencé à insulter les joueurs. Donc, ils l'ont évacué du terrain. Donc après, le match il s'est déroulé tout à fait normalement. Mais bon, on avait verrouillé le match, on avait mis un senior au centre. Hein, mais quand c'est des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes tout seuls, après, il ne faut pas être surpris qu'il y en a qui sont dégoûtés. Mais c'est vrai que bon, ils sont à même de m'appeler quand ils veulent. Généralement, je réponds tout le temps pour les aider quand ils ont besoin.